Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette cinquième journée d'études qui se raccroche au projet que nous soutenons sur l'histoire de la scène punk en France. Punk is not dead, l'acronyme PIN, une histoire de la scène punk en France 1976-2016. Alors, le thème de la journée d'études est un thème essentiel dès lors qu'on s'intéresse justement à l'histoire de la scène, c'est la question des archives. Et nous avons souhaité réfléchir ensemble à cette question de l'archive qui est loin d'être évidente dès lors qu'on travaille sur POC, qui est un mouvement au départ qui ne s'est jamais pensé dans une perspective, une projection extraordinaire dans le futur, d'une part, et puis une réflexion organisée autour de la nature de l'archive, d'autre part. Qu'est-ce qu'on entend par archive sur la question de musique populaire, en particulier du punk. Donc nous avons essayé de rassembler une palette d'intervenants, je dirais, provenant d'institutions, d'associations différentes, qui a un regard différent sur l'archive, et puis une palette d'intervenants qui renvoie aussi à des rouages différents de cette scène punk. On verra tout à l'heure, dans la journée, à la fois des acteurs de cette scène, par exemple je pense à la radio FMR, mais aussi des institutions qui ont commencé à rassembler un certain nombre de documents. Je pense à la France Bibliothèque de Poitiers, parfois ont partagé leur réflexion sur ces questions-là. Et puis, des gens qui ont une approche aussi singulière, particulière, originale, du travail sur l'archive. Nous avons demandé à Jess Collins, de l'Université de Birmingham, de venir discuter avec nous de cette approche très particulière, en mobilisant par exemple la question des réseaux sociaux. Bon, je vais pas présenter toute la journée, vous avez des programmes à votre disposition. Solveig et moi allons introduire ou commencer par rappeler les grands axes de ce programme de recherche et dire un petit peu comment nous positionnons aussi, nous positionnons l'archive dans notre projet. Je voudrais remercier également Jean-Michel Legnaud, à ma gauche, directeur de l'École nationale des chartes, prestigieuse institution, et qui a accepté très gentiment de venir modérer la première demi-journée de notre manifestation scientifique. Modérateur, il sera là aussi pour gérer le temps, et puis aussi en tant que discutant. Et au fond, quel est le regard peut-être de l'École des chartes sur ces archives du punk? Quelles questions ça pose?
On rajoute juste que la journée, on l'a organisée aussi avec Vincent Bois, qui est directeur de la mission des archives au ministère de la Culture, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il se marie, donc c'était une vraie bonne raison de ne pas venir à ça. Voilà, il était excusé, parce que la mission des archives est vraiment intéressée par cette question des archives des musiques populaires et du punk, et je pense qu'on sera amené à collaborer vraiment à l'avenir avec eux. Donc on est très content que cette journée se fasse en collaboration avec la mission des archives. Ah oui, et puis oui, évidemment, on peut remercier le centre qui nous accueille, Barbara Fleury, comme à chaque fois très très bien, et dans lequel on est vraiment très très bien, surtout quand on est dans les canapés du fond. Alors, on va peut-être aller un peu plus vite que ce qu'on avait prévu pour essayer de récupérer un peu de temps. Donc, pour présenter très rapidement, on avait intitulé notre introduction « L'histoire de la scène punk en France, une question d'archives » au pluriel. Et alors, comme on ne sait jamais s'il y a du monde de l'extérieur ou pas, ça dépend de l'heure de la journée, il y a plus ou moins à 14h que le matin, on avait quand même prévu de faire un truc un peu introductif pour rappeler des choses un peu basiques, mais que tout le monde n'est pas obligé de savoir sur le punk en France. Donc, une histoire de la scène punk en France, pourquoi faire? Alors, c'est au cours de l'été 1976 que simultanément aux États-Unis, en Australie, en Angleterre et dans de nombreux pays d'Europe comme la France, une multitude de formations musicales sont brutalement désignées dans la presse comme punk ou s'auto-désignent comme telles. Punk étant un terme argotique que l'on retrouve dès Shakespeare, signifiant vaurien, voyou, prostituée, homosexuel, enfin tout ce qui est du côté plutôt du négatif. Défini par Dick et Beach dans un ouvrage emblématique des Cultural Studies comme un, je cite, « amalgame contre nature », une alliance improbable et mystérieuse de traditions hétérogènes et apparemment incompatibles, tous ces groupes ont en commun eu la volonté de faire table rase de l'histoire du rock au moyen d'une musique qui revendique la simplicité, c'est l'image qu'on a derrière, vous prenez trois accords, vous faites un groupe, des textes qui se moquent des conventions sociales et politiques et une attitude high energy, très énergique et très provocatrice. Cette cacophonie sonore se double d'une cacophonie visuelle avec un répertoire vestimentaire tout aussi éclectique que la musique. Et donc le punk fait quelque part feu d'un héritage complexe et riche dont il se nourrit et qu'il cherche à dépasser dans un refus des codes, des formes académiques de la contre-culture et des modèles établis, les hippies par exemple. Alors en France, on est dans la France de Giscard qui s'ennuie, où bruissent encore les échos du gaullisme finissant, et l'explosion punk est marquée dès l'été 76 par le premier festival punk au monde, qui a lieu à Mont-de-Marsan dans les Landes, et avec des formations en France qui choisissent pour l'essentiel de s'exprimer en français. Et cette première vague, on va dire, trouve un achèvement en 78, lorsque les grands groupes emblématiques se sabordent et qu'une grande partie des scènes occidentales disparaissent, débordées par le nouveau succès de nouveaux courants musicaux comme la New Wave, le disco, etc. Pour autant, en dépit de ce qui peut être affiché comme « Punk is dead », la dynamique punk trouve en France un second, puis un troisième souffle, réinventant jusqu'à aujourd'hui en fait ce qu'est être punk. Voilà, donc je te laisse.
Alors, on a commencé à réfléchir à cette question du punk, autour peut-être des aspects assez paradoxaux que présente cet objet, le punk. Bon, c'est d'abord... Un objet difficile parce que la nature même du punk est problématique. C'est quelque chose qui se plie mal à l'étude académique, qui refuse d'être défini, qui rejette toute méthode et renie l'idée même d'histoire et d'expertise. Hein. Donc il s'agit donc d'un objet paradoxal en ce sens, au contour instable. D'une part, Solveig vient d'évoquer, le punk perdure, hein, on est en train de parler des 40 ans du punk, alors qu'au départ on est sur cette idée du no future, pas de projection dans le futur. Donc il y a un premier paradoxe quand même. Ensuite, c'est un objet qui finalement, autour duquel on peut reconstruire du sens a posteriori, une espèce de... Voilà. Et en même temps, le punk refuse toute cohérence. C'est donc quelque chose qui se situe, qui revendique une forme de désordre, de chaos, d'anarchie, d'infaisabilité. Bon, le punk subvertit l'ensemble dominant de production établie par la revendication d'une idéologie de la débrouille et l'élaboration de réseaux parallèles, tout en se faisant régulièrement rattraper. Donc c'est l'autre paradoxe, par les logiques du mainstream. C'est que depuis le départ, depuis 40 ans, le problème du punk, c'est au fond son propre succès quelque part. Comment on peut être à la fois dans des réseaux, on va dire en marge, défendre cette idée, hein, et puis en même temps, comment on vit l'idée d'un succès, de quelque chose qui marche, d'une autre forme de reconnaissance, cette espèce de paradoxe entre underground et mainstream qui constitue un des paradoxes du punk. Alors, notre projet entend enfin essayer, tenter de dépasser ces paradoxes inhérents à l'objet et le rendre intelligible en quelque sorte. Et pour ce faire, nous pensons que mobiliser la notion de scène comme prisme d'analyse est évidemment particulièrement pertinent. C'est une notion qui a été utilisée de longue date par les journalistes, reprise, conceptualisée. On connaît notamment les travaux de Stroh, mais aussi de Jérôme Guibert, ici présent. C'est une notion qui apparaît comme un outil permanent pour repenser de manière dynamique les pratiques musicales en rapport avec un territoire. Elle offre également l'avantage de replacer la musique, ce qui était vraiment notre question, replacer la musique au centre du mouvement punk. Et permet de relier un ensemble d'acteurs, hein, c'est-à-dire que le punk, ce n'est pas seulement les musiciens, quand on parle de scène, c'est un réseau de lieux, c'est un magasin de disques, c'est une radio, c'est un ensemble d'acteurs. Hein, le prisme de la scène permet d'aborder, d'entrer sur la question du punk par un ensemble d'acteurs. Voilà.
Alors le punk, c'est aussi un objet illégitime, non seulement dans la société, en gros le punk c'est l'image du punk à chien, etc., très très vite, voilà, mais à l'université le punk a aussi un statut problématique, et je précise, c'est surtout à l'université en France, parce que Jess Collins, je le vois plus, mais où est-ce qu'il est? Ah, il est là, il est en haut. On était à Birmingham à une conférence, et en fait, c'est vraiment des objets qui là-bas sont très bien appréhendés, qui connaissent bien, etc. Chez nous, c'est moins le cas. Du coup, pour toutes ces raisons d'illégitimité, il n'y a aujourd'hui aucun travail académique qui a été fait sur l'histoire de la scène punk en France depuis 40 ans. Ce qu'on cherche à faire, avec, notamment parce que le rock a beaucoup été aussi considéré comme une musique d'importation, le rock en France, et donc il y aurait l'idée selon laquelle il n'y a aucune histoire nationale du phénomène à écrire. Donc notre histoire, ce qu'on essaie de faire avec Luc et l'équipe, c'est d'une part donc, de franchir une espèce d'étape dans ce processus de légitimation des formes populaires de la culture, en donnant à notre objet, le punk, une légitimité et une visibilité qu'il n'a pas du tout en ce moment dans le champ académique. D'autant qu'on est persuadé, et ça c'est même pas très original, que le punk offre une focale décisive pour appréhender et pour comprendre les dispositifs de création et de résistance qui structurent nos sociétés contemporaines, et que donc il y a beaucoup de choses de la société contemporaine qui peut être lues au prisme de ça. Donc ça renforce l'importance de ce qu'on fait. Alors on arrive aux archives.
Alors, l'autre aspect important, je trouve, c'est la question de l'objet comme étant vulnérable. C'est une question autour de laquelle il faut quand même discuter. Donc, notre recherche, nous pensons qu'elle doit être menée là aujourd'hui. Il y a un caractère d'urgence, nous semble-t-il, celui de sauvegarder une mémoire qui est en train de s'éteindre. Alors déjà, en raison de la vulnérabilité même des acteurs, hein, le punk, c'est un mouvement, on est en train de s'en rendre compte en ce moment, les gens, disons, de la première génération sont en train de disparaître, hein. La durée de vie est assez réduite. La vulnérabilité des acteurs, bon, bien sûr, confrontés à un style de vie souvent rude, à des formes d'addiction, généralement redoutables, qui laissent quand même, je dirais, osons les mots, des gens relativement abîmés physiquement. Et puis, il faut tenir compte également de la fragilité et du caractère périssable des supports matériels. Alors, ça va être au cœur des discussions aujourd'hui, qui constituent précisément l'archive qu'on va questionner. Alors, caractère périssable des supports matériels est consubstantiel à cette idéologie du punk qui était précisément de ne pas durer. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le punk, c'est un mouvement qui n'a pas prévu au départ de durer, d'écrire une mémoire, de poser les choses comme étant indéfinies. Hein. Donc cette question est au cœur de notre travail. Quand on réfléchit au punk en tant que mouvement, en tant que mouvement musical, comme ça, hein, pour le dire très rapidement, quels sont les types d'archives auxquels on est confronté ? Des cassettes, des supports cassettes, autoproduits, des photos amateurs, polaroïdes, etc., des flyers faits main, beaucoup de travail autour des fanzines, on le verra, la photocopie a beaucoup marché, hein. Des supports de promotion bricolés, etc., etc. Donc ça pose deux questions, évidemment la question du périssable, et puis la deuxième question étant évidemment, au sens noble du terme, d'inventer cette archive, hein, qui ne nous attend pas rangée comme ça sur l'étagère des institutions.
Alors l'autre problème, c'est que les archives du punk ne font évidemment l'objet d'aucune conservation institutionnelle. Alors, à la différence de ce qui existe par exemple en Allemagne, avec les archives der Jugendkulturen, et il me semble, je pense qu'on ne se trompe pas, que seule la Fanzinothèque de Poitiers, justement, constitue un centre documentaire alternatif unique, mais elle est ciblée sur les fanzines, la micro-édition et la petite presse, et donc elle ne recouvre qu'une petite partie de ce qu'on cherche à faire sur les archives de la scène punk. Mais elle est déjà là, c'est déjà pas mal. Ces archives de la scène punk, je pense que c'est ce que la journée va montrer, elles existent bel et bien, elles sont même nombreuses. Qu'il s'agisse d'archives sonores qui interrogent le fond musical du punk, qu'il s'agisse d'archives documentaires, flyers, badges, autocollants, pochettes de disques, photographies, fanzines justement, qui donne un sens et une matérialité à cette musique dans ses aspects médiatiques, esthétiques, visuels, identitaires. Et aussi, évidemment, les archives vivantes. Donc, c'est ce qu'on dit quand on explique qu'on est enceinte, c'est que les acteurs s'éteignent. Ben, les archives, elles sont de moins en moins vivantes. Les archives vivantes basées sur la parole, la mémoire des acteurs, avec tout ce que ça suscite aussi c'est de la mémoire qu'il faut prendre avec précaution, parce qu'en 40 ans, on a le temps d'oublier ou de reconstruire sa propre mémoire, évidemment. Donc, ce projet qu'on mène, entend vraiment, d'une part, faire surgir cette archive, et quelque part relever le défi de la préservation, voire, et je mets des guillemets parce que je pense qu'on pourra en débattre aussi ce matin, de la patrimonialisation du punk, qui n'est pas forcément son objet premier, évidemment. Vraiment, il y a donc un très gros travail de collecte, de valorisation, d'analyse et d'interprétation du côté de la recherche des archives de cette scène punk en France, qui est vraiment au cœur de notre projet. On passe peut-être rapidement pour gagner là-dessus. Alors, les archives, ça sert à quoi? On a essayé de trouver quelques petits exemples pour vous montrer à quoi ça pouvait servir. Alors, par exemple, on a un chantier dans notre projet qu'on a appelé Historicité et Généalogie, et dont le but était de mettre en lumière les différents segments, en fait, les différentes vagues, qui, tout en se référant à la rupture de 76 punk, permettaient de renouveler le punk en tant que paradigme musical, esthétique et artistique. Et il va de soi que toutes les archives dont je vous ai parlé tout à l'heure, à la fois sonores, visuelles, etc., concourent tout à fait à ce genre de chantier.
Donc, deuxième chantier, c'est le travail autour de la mémoire. Alors, à la fois, le mouvement punk, c'est un mouvement, bien qu'il ne se projette pas dans le futur au départ, les punks ont vieilli. On vient d'en discuter un petit peu, la question de la mémoire. Il s'agit de se focaliser plus particulièrement sur la question, donc, du vieillissement, de l'avancée en âge, et de montrer de quelle manière la mémoire travaille, et travailler peut-être même autour des cadres théoriques développés par Pierre Nora, autour des lieux de mémoire, et de quelle manière la mémoire travaille à réactualiser la réalité et le mythe punk, en cherchant à évaluer jusqu'à quel point une tradition punk peut s'inventer aussi. Donc c'est travailler un petit peu sur les régimes d'historicité, en fait, du punk. Donc évidemment, l'archive est fondamentale, à la fois parce qu'on va chercher d'un côté objectiver les choses, et puis parce qu'on travaille sur la mémoire, et que ce travail sur la mémoire est en lui-même à la fois essentiel et nécessite des précautions méthodologiques tout à fait particulières. La question de la violence, c'est le troisième chantier. Alors, intérêt spécifique sur ces questions, parce que le punk est systématiquement perçu comme un mouvement violent depuis le début. Un intérêt spécifique est porté à la question des émotions, en particulier de ce qui se construit autour de cette idée de violence, soit parce qu'elle est reçue, entendue comme telle, soit parce qu'elle est construite, cette idée de violence, donc violence apparente ou réelle. En l'occurrence, juste une petite parenthèse, donc, le travail sur la presse, par exemple, sur la manière de construire un discours autour du punk ou de stigmatiser est tout à fait essentiel. Donc la presse est aussi une archive évidemment essentielle. Alors nous souhaitons interroger le punk dans son rapport musical à cette idée de violence, et donc mobiliser de l'archive autour de cette question. Médiation et médiatisation, je viens d'en dire deux mots, c'est essentiel. Il s'agit de montrer que la spécificité du punk en tant que scène est d'être produit et de produire symétriquement des acteurs, des objets, des dispositifs qui sont constitutifs de cette scène. Donc ça veut dire quoi? Je vais te parler de la presse. C'est par exemple cette idée que le punk est autant un mouvement qu'il faut entendre comme une création originale, mais c'est aussi un mouvement qui est construit, produit par des discours. Et avec Solveig, nous avons déjà engagé un travail autour de cette archive particulière que sont les magazines musicaux, la presse spécialisée en France, pour comprendre de quelle manière une musique, finalement, est autant écoutée que lue. Et comprendre de quelle manière, en revenant vers cette archive, on peut arriver à voir se dessiner, justement, une image particulière de ce qu'est le punk. On a beaucoup travaillé sur la période 76-78, notamment, pour voir comment la presse, à la fois, avait reçu cette question de la réception du mouvement musical, mais aussi comment elle avait participé à elle-même définir, désigner ce qui était punk ou ce qui ne l'était pas. Donc ce travail autour de la presse musicale spécialisée est essentiel. Beaucoup d'autres archives à considérer dans ce sens-là, y compris la presse généraliste, qui qui a aussi participé à construire une idée du punk, souvent en le stigmatisant d'ailleurs. Alors, travail autour du corps et des usages, des répertoires des usages corporels. Alors, les cultures corporelles originales du punk, hein, on a quand même des modèles très, très spécifiques d'usage du corps. Alors, ça va du look, un travail évidemment sur des archives qui restent à inventer là aussi. Pas que l'iconographie, si vous voulez, mais pour travailler sur la mode, sur les représentations du corps, sur la manière d'user son corps dans les concerts, d'utiliser son corps pardon, dans les concerts. Le punk, par exemple, fait émerger une danse tout à fait originale, le pogo. La manière de marquer son corps, de le percer, de le tatouer, de dire des choses avec son corps. Donc il y a toute une réflexion, évidemment, l'archive est à penser aussi dans cette perspective-là. Enfin, question essentielle, le genre.
Le genre, la vraie question, c'est comment la scène punk a pu générer des équilibres spécifiques dans l'ordre du genre. Là, il va de soi qu'il y a, par exemple, beaucoup d'archives d'entretien auprès de femmes musiciennes ou dans le public. On a déjà un tout petit peu commencé à ébaucher ce terrain. Et l'idée, c'est un peu d'arriver à déterminer quelles frontières délimitent les territoires du masculin et du féminin dans la fabrication du fait musical punk, parce qu'on pourrait penser que le punk, c'est un espace de libération des femmes aussi, vu l'idéologie qu'il y a derrière, et en fait, c'est pas forcément le cas. Donc tout un travail là-dessus que les archives, justement, peuvent permettre de faire surgir à travers des vidéos, à travers des entretiens, à travers des photos de Sue, la dernière fois, elle m'en a montré, de jeunes femmes barrières. De jeunes femmes, comment elles s'habillent quand elles vont au concert, justement, un nouveau rapport au corps, etc. Donc voilà. Il y en a d'autres échantillons, on ne les a pas tous mis parce qu'il y en avait qui étaient moins archivistiques, mais voilà un peu tout ce qu'on peut faire à partir de ce genre d'archives. Et j'ajouterais, parce que Luc n'en a pas parlé, par exemple, Laurence est là, de la miroiterie. Il y a 2 ans, avant que la miroiterie ne tombe, j'avais mené un petit travail de terrain sur justement les archives de la miroiterie et où tout le monde avait été très très collaboratif avec moi. Et en fait, quand on s'intéresse de près à ces archives et que les gens sont favorables, on arrive à en collecter. Moi, j'ai plein de boîtes d'archives au labo, j'ai 3500 flyers, j'ai des heures d'entretien avec les gens. Et ça prouve bien qu'en fait, il y a un travail de fourmi minutieux. Je pense que chacun des membres de notre équipe que vous voyez ici va faire ce travail ou est en train de le faire pour ce projet. Et je pense que c'est la somme de ces petits travaux comme ça minutieux qui permettront de dégager une histoire de la scène punk en France.
Et puis, dernière archive, elle est centrale, elle est tellement exemple à la barre, c'est évidemment tout le corpus des productions musicales et des textes. Hein, évidemment, c'est-à-dire la production de la création directement sur lequel, évidemment, il y a un vrai travail à faire. Alors, on avait commencé un petit peu ce travail à travers des thématiques très spécifiques. Et puis, ce corpus-là permet aussi de travailler sur des approches qui sont liées, par exemple, on a commencé aussi un travail dans le sens de l'histoire du son. Quoi. Qu'est-ce que c'est sonner punk ? Et on voit là aussi se dégager des choses qui sont très intéressantes en termes de périodisation. Hein, donc, revenir. Bon, alors, si on travaille sur le son punk, on est bien évidemment obligé de travailler sur un corpus particulier qui est celui précisément des créations artistiques, des productions musicales, etc. Et c'est pas seulement les disques, hein, c'est aussi une approche de l'instrument, donc une réflexion engagée sur le matériel, c'est aussi une réflexion sur la production artistique, c'est-à-dire comment on construit un son, c'est bien sûr, hein, on en revient à cette idée de scène, donc ce sont les musiciens, mais aussi toute une gamme d'intervenants, de professionnels ou pas, hein, de gens qui s'inventent justement dans cette une oreille qui reste à reconstruire, hein, à comprendre. Donc la question du son renvoie finalement à ce travail autour de la création. Quelles sont les archives de la création? Peut-être que Jean-Michel en parlera, hein, c'est une question qui est au cœur de ces préoccupations également en ce moment. Voilà. Donc merci pour votre attention. On va donc donner la parole, peut-être que Jean-Michel a un mot à dire en discutant, et ensuite on va enchaîner. Ou donner la parole à ça.
Oui, je dirais juste quelques mots pour commencer. J'entendais l'autre jour une définition des conditions de l'innovation comme étant la confrontation de deux domaines radicalement différents qui ne s'étaient jamais confrontés jusqu'alors. Et là, on est en présence un peu de ça. D'un côté, un acte de création, de consommation et de communication, pour employer ces gros mots, qui serait susceptible d'être perçu sous un angle d'ethnomusicologie. Je pense que ce qui vient d'être dit confirme que les méthodes de l'ethnomusicologue sont appropriées à la question. Et puis de l'autre côté, des questions touchant l'archivistique, la conservation d'archives et le pourquoi de cette conservation d'archives, c'est-à-dire la patrimonialisation. Et à partir de là, on est forcé de considérer que dès lors que l'on veut essayer de transformer le volatile et l'éphémère en durable par la conservation des produits qui ont été produits matériels et des supports matériels de création matérielle, on imagine la conservation de cela, on est forcé aussi immédiatement de se poser la question du pourquoi faire. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Imaginons qu'on conserve, ou mieux, qu'est-ce qu'on veut en faire? Simplement une histoire pour transcrire dans le marbre ce qui n'était que dans l'air? Ou est-ce que c'est aussi dans l'idée de conserver des artefacts qui seraient susceptibles d'être présentés comme on présente des œuvres à caractère ethnographique ou plus encore artistique. Il me semble qu'à l'emblée de la discussion que nous avons, il faut que nous posions cette question. Bien sûr, il faut imaginer les conditions de la conservation avec les spécificités même du phénomène, prendre en compte le fait qu'on sait faire dans un certain nombre de domaines relativement proches. Donc on dispose tout de même d'un certain nombre de solutions, pour en parler plus tard. Mais en même temps, il faut se poser la question de la finalité. Est-ce que cette finalité fait preuve d'une originalité spécifique, ou est-ce qu'il s'agit d'un acte de transcription, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui a été fait? Je m'en tiendrai là pour le moment, peut-être, et je crois qu'il faut laisser la parole à Jess Collins. De venir à la table.
Check.